Bonjour et bienvenue. Alors, on a devant nous aujourd'hui un ensemble de documents qui brossent un portrait assez fascinant du Maroc en ce mois de février 2026.
Oui, bonjour. C'est un tableau très contrasté.
Exactement. On voit une nation qui se bat sur plusieurs fronts en même temps. Il y a une bataille pour sa souveraineté numérique, des phénomènes météo extrêmes et, en parallèle, une affirmation de son rôle sur la scène africaine.
C'est ça.
L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre les dynamiques et les défis qui animent le pays en ce moment.
Et ce qui est frappant, c'est cette juxtaposition. On a d'un côté des inondations massives, donc quelque chose de très concret, de très physique,
Très visible, oui.
et de l'autre, des enjeux beaucoup plus abstraits qui se jouent dans les standards informatiques mondiaux.
C'est fou ce grand écart.
Ben oui. Et cette dualité en montre à quel point la notion même de souveraineté, de sécurité nationale, est devenue complexe aujourd'hui.
Alors, commençons par ce combat plus abstrait, parce qu'il y a un point qui semble vraiment obséder le débat public marocain, la carte du royaume.
Ah, la carte, c'est un sujet majeur.
Les sources la décrivent comme une ligne rouge absolue, une affirmation identitaire. Pour une majorité de Marocains, une carte complète qui inclut les provinces du Sud, ce n'est tout simplement pas négociable.
C'est un point de crispation énorme, très émotionnel.
Et les internautes sont même dépeints comme des vigiles de la souveraineté. Ils scrutent la moindre publication, que ce soit une organisation internationale ou un média étranger.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que toute l'attention est portée sur cette carte, ce symbole très visible, très frontal,
Oui.
un autre symbole beaucoup plus discret mais omniprésent vient contredire complètement cette position.
Et c'est l'émoji.
C'est l'émoji du drapeau du Polisario. Si vous tapez Sahara occidental dans une application comme WhatsApp, pouf, le drapeau apparaît.
C'est quand même incroyable. Les documents qualifient ça d'anomalie numérique majeure. Et ça fait près de 10 ans que c'est là.
Depuis presque 10 ans, oui. C'est ça le cœur du paradoxe. La carte est visible, elle provoque des réactions collectives, de l'indignation.
On la voit, on réagit.
Exactement. L'émoji, lui, il agit à bas bruit, comme le dit une des sources. Il s'infiltre dans nos conversations privées, il se normalise par l'usage quotidien. Personne ne crie au scandale.
Il est presque plus insidieux.
Bien plus. Il s'installe par son invisibilité relative, alors que la carte choque par sa présence.
Mais attendez, comment cet emoji est arrivé sur nos claviers? Ce n'est pas une fantaisie d'un développeur.
Ah non, pas du tout. C'est une décision très technique, très officielle. Il a été intégré au standard Unicode entre 2010 et 2015.
Unicode, c'est cette espèce d'instance mondiale qui gère tous les caractères sur nos appareils?
C'est exactement ça. Il faut le voir comme une sorte d'ONU des symboles. C'est Unicode qui donne le passeport à chaque lettre, chaque caractère, chaque émoji, pour qu'il puisse s'afficher partout, sur un iPhone, un Android, n'importe quel ordinateur. Sans ce passeport, le symbole n'existe pas numériquement.
Donc ce comité a donné un passeport à un drapeau qui représente une entité non reconnue internationalement. C'est là que c'est fallacieux, comme le disent les documents.
Qui n'a jamais eu d'existence juridique ou politique reconnue. Ça accorde une légitimité symbolique par un biais purement technique.
C'est fascinant, ça veut dire que la souveraineté aujourd'hui, elle se défend aussi dans les lignes de code.
Tout à fait, l'émotion ne suffit plus, le combat doit se déplacer sur le terrain juridique et technique. S'indigner sur Twitter, ça ne me change pas un standard Unicode.
Alors, quelle est la riposte possible?
Eh bien, le calendrier est crucial. Les sources mentionnent que la prochaine version majeure, Emoji 18.0, est attendue pour septembre 2026. Il existe des fenêtres de recours, des procédures pour corriger ce genre de duperie numérique.
D'accord.
Mais pour ça, il faut moins de réactions virales et plus d'expertise juridique, technique et diplomatique. Il faut des gens qui peuvent monter un dossier solide et le défendre dans ces instances très fermées.
On passe de la tempête virale sur les réseaux à une sorte de guérilla d'experts.
C'est une bonne image.
Et pendant que cette bataille symbolique se joue sur les écrans, le pays fait face à des défis bien plus réels. On change complètement de décor.
Oui, on passe de la tempête numérique à la tempête météorologique, littéralement.
C'est ça, on parle d'une séquence météo très agitée. Après les tempêtes Leonardo et Martha, une nouvelle dépression nommée Niels est imminente.
Et cette succession rapide, c'est ça le vrai problème. Elle laisse très peu de répit. On attend des vents violents, des pluies soutenues et d'importantes chutes de neige sur les reliefs de l'Atlas.
Quel est l'impact de cet enchaînement? J'imagine que les sols n'en peuvent plus.
C'est l'effet cumulatif qui est terrible. Les sols sont saturés d'eau, ils n'absorbent plus rien. Donc le risque d'inondation, de glissement de terrain était considérablement augmenté.
Et c'est le paradoxe pour un pays en stress hydrique. Ces pluies sont une bonne nouvelle pour les barrages, mais...
Mais leur intensité pose d'énormes défis de sécurité civile. Et les conséquences sont déjà là. Suite aux intempéries des deux derniers mois dans les plaines du Garbe et du Loukos, le gouvernement a dû réagir très fort.
Oui, le roi Mohamed VI a ordonné le déploiement d'un programme d'aide de 3 milliards de dirhams. L'événement a été classé catastrophe naturelle.
Absolument. Et les chiffres sont parlants.
Plus de 110 000 hectares inondés.
Et près de 188 000 personnes déplacées. C'est énorme.
C'est considérable. Comment se répartit ce plan d'aide ? 3 milliards, c'est une somme, mais concrètement, ça va où ?
C'est une très bonne question. En fait, le plan est assez détaillé. Il y a une partie urgence et une partie plus structurelle.
D'accord.
Pour l'urgence, on a 775 millions de dirhams pour le relogement et la reconstruction des maisons. Et aussi 300 millions pour les agriculteurs pour compenser leurs pertes. Ça, c'est pour survivre.
Le pansement, en quelque sorte ?
C'est un peu ça. Et ensuite, il y a la plus grosse enveloppe, 1,7 milliard, qui est pour la réhabilitation des infrastructures.
Ah, donc là, on est dans le long terme.
Exactement. On ne se contente pas de réparer les routes ou les ponts, on revoit les équipements hydro-agricoles, les eaux. L'objectif, c'est de reconstruire mieux pour être plus résilient la prochaine fois.
Et c'est fou de voir que malgré ces défis internes, le Maroc continue de marquer des points sur la scène internationale.
C'est le troisième front. On passe du front intérieur au front diplomatique et plus particulièrement africain.
Et là, il y a cette élection au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Oui, et dès le premier tour, ce qui n'est pas anodin, c'est un nouveau mandat de 2 ans.
Expliquez-nous le poids de cette élection. Le Conseil de paix et de sécurité, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour tout ce qui est gestion des conflits sur le continent. C'est un poste très stratégique.
C'est un peu le Conseil de sécurité de l'ONU, mais pour l'Afrique.
C'est une excellente comparaison. Et le fait que le Maroc obtienne plus des 2/3 des voix pour son 3e mandat depuis son retour en 2017.
Ça en dit long sur son influence.
Une des images des documents mentionne que le FMI prévoit que le Maroc deviendra la 5e puissance économique africaine d'ici 2026.
Donc tout est lié. La puissance économique nourrit l'influence diplomatique.
L'un ne va pas sans l'autre. La présence économique marocaine sur le continent, que ce soit les banques, les assurances, le BTP, tout ça donne une crédibilité, un levier. Cette élection, c'est la validation d'une stratégie de long terme.
Et les documents précisent qu'il ne s'agit pas juste d'occuper un siège.
Non, le Maroc est vu comme un membre constructif qui cherche à améliorer le fonctionnement du Conseil. Il veut façonner l'institution de l'intérieur.
Les subtilités de la diplomatie numérique et son positionnement stratégique en Afrique. C'est une nation en pleine tension.
C'est une excellente synthèse, oui. Une tension permanente sur tous les fronts. Et il y a une dernière chose. Une information qui est presque une note de bas de page dans nos sources.
Ah oui.
Mais qui pourrait être en fait la plus importante pour l'avenir. Le 11 janvier 2026, la génération Z a adopté un manifeste de la jeunesse.
Un manifeste de la jeunesse ? Qu'est-ce que ça dit ?
Ça parle de créer un nouveau pacte national. Les mots sont choisis. L'objectif est d'élever le niveau des droits et libertés et de concrétiser de nouvelles revendications, sociales, culturelles.
Et ça soulève une question intéressante pour la suite.
Fondamentale, je dirais. Pendant que l'État marocain se bat pour les symboles de sa souveraineté territoriale, que ce soit sur une carte ou dans un émoji,
oui.
Une nouvelle génération est peut-être en train de définir les prochains combats.
Exactement.
Ces combats ne porteront peut-être plus seulement sur le territoire, mais sur des aspirations civiques, sociales, culturelles.
Autrement dit, le champ de bataille se déplace.
Voilà. La véritable souveraineté de demain, celle qui cimente une nation de l'intérieur, se jouera peut-être aussi, et surtout, sur ce terrain-là. C'est une dynamique qu'il faudra suivre de très, très près.